Jusqu'au 2 juillet, le Centre tchèque de Tokyo expose le projet de bande dessinée des étudiants de la faculté de design et d'art Ladislav Sutnar à Plzeň. Dans le cadre d'un exercice original, ils ont représenté la vie quotidienne des Japonais à partir de textes écrits par le poète franco-tchèque Jean-Gaspard Paleniček, installé à Tokyo depuis quelques années. Les projets sélectionnés ont également fait l'objet d'un livre de bande dessinée en français, tchèque, anglais et japonais au micro de Radio Prague International et plus précisément d'Anna Kubishta. Jean-Gaspard Paleniček est d'abord revenu sur le titre de cette bande dessinée, Yogi.
Yogi, en fait, c'était un village, un lieu à l'ouest de Tokyo qui a intégré Tokyo juste après la Seconde Guerre mondiale définitivement, dont il ne reste que le nom, c'est le nom d'une gare dans un quartier qui s'appelle Suginami et qui est un des grands quartiers à l'ouest de Tokyo. Le quartier où je vis depuis 4 ans et où je me rends régulièrement depuis 15 ans maintenant, pour des raisons familiales, des raisons amicales. Dans ce livre de récits bande dessinée sur le Japon et sur, je dirais, avec un accent mis sur le latent vie quotidienne, vie ordinaire, vraiment avec une volonté marquée de s'éloigner de toutes les images reçues, plus ou moins justes, mais communes qu'on a en Occident du Japon. Une grande partie de ces récits se déroule dans ce quartier, se déroule autour de la gare de Yogi. Et c'est un nom qui peut paraître un peu mystérieux, bien sûr, pour les lecteurs occidentaux et aussi pour certains japonais, parce que même les tokyoïtes ne connaissent souvent pas ce nom.
Puisque ça a disparu, en effet. Enfin, ça a été intégré.
Et en même temps, je pense que c'est un choix volontaire. Ça marque donc ce côté très, voilà, quartier, résidentiel, vie quotidienne, très loin des gratte-ciel. Il faut imaginer Tokyo, le Tokyo de tous les jours, c'est-à-dire une espèce de village gigantesque, démesuré, fait de maisons en bois de pas plus d'un étage, collées les unes aux autres, avec des relations de voisinage qui se rapprochent plus de la vie de village que de la vie, qu'on pourrait imaginer dans une mégalopole. Et donc, c'est cet aspect-là que le titre lui-même, évoque de façon un peu cryptique, mais assez forte, avec les différentes couches d'histoire qui parfois sont cachées sous ce qui a pu venir après, quoi.
Alors, ce qu'il faut rappeler, hein, quand même, c'est que donc ce projet, hein, c'est en fait le résultat d'un travail des étudiants, hein, de cette faculté de design et d'art, Ladislav Sutnar, hein, donc des étudiants tchèques, mais pas uniquement, hein. Et c'est surtout fait à la base de vos textes, en fait. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est vous qui avez écrit ces textes et eux ont fait leur projet de dessin de bande dessinée par rapport à ces textes-là. Est-ce que vous pourriez peut-être détailler justement cette collaboration?
L'idée du projet est venue à Vaclav Schleich, qui est donc auteur de bande dessinée, illustrateur, et qui est aussi professeur et directeur de l'atelier d'illustration média à la faculté Ladislav Sutnar. Nous nous sommes rencontrés lors d'un échange qu'il a eu entre universités. Il a eu un séjour à l'université des Beaux-Arts de Musashino, ici à Tokyo. Voilà, nous avons sympathisé, nous avons commencé à parler entre autres du Japon. J'étais curieux d'avoir ses impressions et j'ai commencé à lui donner des exemples, des histoires pour lui décrire peut-être d'autres aspects du Japon que ceux que peut percevoir quelqu'un qui débarque, qui n'a pas forcément de contact, capable de lui ouvrir les portes, ouvrir les yeux sur ce que l'on perçoit forcément au début par le biais voilà, d'idées préconçues, à travers l'obstacle de la différence culturelle, de la différence linguistique. Donc, sur la base de cette rencontre, il m'a demandé d'écrire un certain nombre de scénarios, 14 scénarios, à partir desquels ces étudiants pourraient dessiner des bandes dessinées. Ce qui nous a fait plaisir, c'est que le projet a suscité l'engouement à la fac, parce que ce ne sont pas seulement ces étudiants qui s'y sont collés, mais aussi des étudiants d'autres ateliers et d'autres années. Donc, on a eu un peu moins d'une trentaine de dessinateurs à faire parfois les mêmes récits, sachant que le livre qui est paru comporte 11 bandes dessinées, mais il y a eu près d'une vingtaine de bandes dessinées créées ainsi. La manière dont s'est passée la collaboration, bien sûr, il y a l'aspect ordinaire, c'est-à-dire celui de la collaboration d'un scénariste avec des dessinateurs, sur le rythme des BD, sur la précision de certains détails. Ici, s'est ajoutée, bien sûr, une difficulté supplémentaire. Nous voulions que le livre puisse présenter de façon la plus juste possible, dans la mesure de nos capacités, donc une image un peu différente du Japon aux lecteurs occidentaux, puisque le livre paraît en tchèque, en anglais, en français et en japonais, et aussi que le degré de fidélité, de vérité dans le dessin, dans le rendu, soit tel que les lecteurs japonais puissent s'y reconnaître. Bien sûr, ça, ce n'est pas évident pour des dessinateurs qui n'ont jamais été au Japon, qui pour certains avaient une connaissance minime de la culture japonaise. La grande difficulté, ça a été d'en arriver à un résultat qui soit satisfaisant. Sachant que, et je pense que c'est un des intérêts pédagogiques aussi de ce projet, puisque on a vu souvent des projets de séjour artistique. Je pense par exemple à cet assez beau volume qui s'appelle Le Japon vu par 17 auteurs, paru chez Casterman en 2005, je crois, où l'idée était d'envoyer des auteurs de bande dessinée français ou francophones, Johann Sfar, Emmanuel Libert, Nicolas Crécy et d'autres, au Japon. Pour les y faire séjourner, chacun à un endroit différent, et ensuite créer des récits sur la base de ce qu'ils ont vu, sachant que le résultat, souvent dans ce genre de projet, c'est inévitablement que l'auteur étranger décrit son expérience de l'exotisme, de l'incompréhension, du peu de choses qu'il arrive à capter.
Oui, c'est aussi, il capte en fait un temps T c'est-à-dire le moment où il est là, alors que finalement, dans ce cas précis, les étudiants ne sont pas du tout immergés en fait dans la société japonaise, pour le coup, doivent vous faire confiance à vous, finalement, l'auteur, la personne en fait qui connaît plus, on va dire, le Japon de l'intérieur, mais vous êtes aussi capable de voir cet autre côté puisque vous-même n'êtes pas japonais. Donc finalement, il y a une espèce d'échange permanent entre les deux.
Oui, et je ne prétends pas non plus être un grand spécialiste du Japon. Mon regard reste celui de quelqu'un qui est dans l'entre-deux. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que il a fallu envoyer et fournir aux étudiants, on leur a fourni à peu près 2000 photos, des vidéos, des liens, des informations historiques, sociologiques, culturelles, bien sûr. Et je pense que l'intérêt pour eux était de comprendre qu'il fallait abandonner toutes leurs idées reçues, tous leurs préjugés, s'immerger, essayer de trouver le bon degré d'empathie en se laissant guider, donc, pour en arriver à quelque chose qui finalement a un certain degré de fidélité. Je me base sur les réactions des premiers lecteurs japonais. Je pense à quelqu'un ici qui m'a dit, par exemple, avoir lu le livre d'une traite et s'être rendu compte le lendemain, mais comment ça se fait que j'ai eu autant de facilité à lire ce livre? Comment ça se fait que c'était aussi naturel pour moi, que je n'ai pas buté sur des détails, des éléments qui auraient été choquants?
Peut-être une dernière question qui me vient à l'esprit, évidemment. Le Japon, c'est donc évidemment le pays du manga. Alors là, finalement, ce qui est intéressant, c'est que la Tchéquie, pour le coup, c'est, on va pas dire que ce soit un grand pays de bande dessinée du type France-Belgique, mais ces dernières années, quand même, il y a un petit bouillonnement intéressant au niveau éditorial, au niveau de la création. Ça a peut-être pas cette identité forte BD comme la France, mais il y a quelque chose. La preuve, c'est qu'en effet, c'est quelque chose qui est étudié à la fac, hein, d'une certaine, enfin, qui est étudié tout simplement. Qu'est-ce que ça vous inspire justement sur le résultat justement de cette confrontation entre une tradition, on va dire, européenne, tchèque pour le coup, de la BD et ce pays du manga qui est le Japon. Est-ce que peut-être il y a les élèves, les étudiants ne se sont pas sentis trop impressionnés justement par ce poids finalement culturel du manga pour leur création? Est-ce que vous en avez parlé?
Je crois qu'un étudiant a eu la tentation de proposer sa bande dessinée dans un style qui s'apparente au manga, ce qui n'est pas rare. Il y a plein d'auteurs de bande dessinée en Europe et ailleurs qui essaient de faire des choses qui soient vraiment dans le style du manga. Je pense entre autres à cette revue Vieillis en République tchèque qui est vraiment dédiée à des auteurs tchèques dessinant des mangas. Mais nous avions ici décidé à dessein de ne pas prendre cette route-là. Nous n'avons pas interdit à l'étudiant en question de faire ce qu'il sentait, mais voilà, ce n'est pas un des récits que nous avons choisi de publier dans le livre. Je pense qu'une des particularités de la bande dessinée tchèque, pour diverses raisons, dont une des raisons, c'est la spécificité historique de la bande dessinée tchèque, perçue sous le régime communiste comme une forme typiquement occidentale, capitaliste, dégénérée, utilisée soit à des fins de propagande, soit comme un moyen plus ou moins éducatif, en tous les cas très fortement marqué comme quelque chose qui est destiné aux enfants, qui est inférieur. Cette situation spécifique-là et une certaine l'interruption d'une évolution commencée avant la Seconde Guerre mondiale a fait que le renouveau tout à fait intéressant, bouillonnant de la bande dessinée tchèque de l'après 1989, et notamment à partir du début des années 2000, fait que, il me semble, une des caractéristiques de la BD tchèque, c'est que ces auteurs l'aperçoivent comme quelque chose de non seulement hautement personnel, mais aussi d'un peu spécial, d'un peu marginal, de quelque chose qui n'a pas encore ou qui est en passe d'avoir seulement sa place véritable dans la société. Et ça les amène à développer leur propre style visuel. Un style visuel qui peut parfois s'apparenter à la peinture, à l'illustration de livres. Donc il y a une grande diversité de styles, l'ambition de faire quelque chose qui soit pas seulement de la narration à travers des images, mais qui passe par un style visuel artistique, à proprement parler, avec des hautes ambitions. Et je pense que les Japonais sont sensibles à cet aspect-là. Certains des lecteurs se sont fait un peu écho, m'ont dit « mais c'est incroyable, on a l'impression que ce sont des… » Par moments, on a l'impression que c'est très loin du manga. On a l'impression que il y a une recherche stylistique, visuelle beaucoup plus poussée qui pour nous s'apparente plus, voilà, aux beaux-arts qu'à la bande dessinée. Il y a une autre spécificité qui vient peut-être en partie de quelque chose qui est propre à un certain pan de la bande dessinée européenne, mais qui m'est propre, moi, comme auteur, et qui était présent dans les scénarios, c'était, de ma part, la volonté d'exprimer le plus possible les choses à travers ce que l'on voit, et non à travers ce que l'on lit. Je pense que la bande dessinée, comme le cinéma, est un médium narratif visuel, et c'est vrai que j'ai essayé de faire le plus possible ressentir les choses au lecteur à travers ce qu'il pouvait voir des émotions des personnages, plutôt que d'expliquer au lecteur à travers des dialogues ou des commentaires quelque chose qu'il peut lire dans des livres ou sur Internet. Et ça, c'était aussi un élément assez marquant pour les lecteurs japonais, très habitués à ce que les mangas soient pleins de textes, d'onomatopées, justement, encore une fois, pour mieux faire passer les émotions. Ici, ce qui était frappant, je pense, c'est, en tous les cas, deux lecteurs m'ont fait la remarque, c'est qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient amenés à se concentrer beaucoup plus sur les expressions des personnages, sur leurs émotions intériorisées, sans se laisser guider par justement tout l'appareil de commentaires, d'onomatopées, de textes auxquels ils sont habitués.